Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc cette semaine dans nos lectures en liberté et je vous propose une succession de textes courts qui aurait pour dominante la dimension policière. Mais ce seront des textes assez étonnants. Nous allons démarrer justement cette semaine par un texte de Honoré de Balzac, La Grande Bretèche. À une centaine de pas environ de Vendôme, sur le bord du Loir, il se trouve une vieille maison brune, surmontée de toits très élevés et si complètement isolée qu'il n'existe alentour ni tannerie puante ni méchante auberge, comme vous en voyez aux abords de presque toutes les petites villes. Devant ce logis est un jardin donnant sur la rivière et où les buis, autrefois ras, qui dessinaient les allées, croissent maintenant à leur fantaisie. Quelques saules, nés dans le Loir, ont rapidement poussé comme la haie de clôture et cachent à demi la maison. Les plantes que nous appelons mauvaises décorent de leur belle végétation le talus de la rive. Les arbres fruitiers, négligés depuis 10 ans, ne produisent plus de récolte et leurs rejetons forment des taillis. Les espaliers ressemblent à des charmilles. Les sentiers, sablés jadis, sont emplis de pourpriers. Mais à vrai dire, il n'y a plus trace de sentiers. Du haut de la montagne sur laquelle pendent des ruines du vieux château des ducs de Vendôme, le seul endroit d'où l'œil puisse plonger sur cet enclos, on se dit que dans un temps, qu'il est difficile de déterminer, ce coin de terre fit les délices de quelques gentilshommes occupés de roses, de tulipiers, d'horticulture en un mot. Mais surtout, gourmand de bons fruits. On aperçoit une tonnelle, ou plutôt les débris d'une tonnelle, sous laquelle est encore une table que le temps n'a pas entièrement dévorée. À l'aspect de ce jardin qui n'est plus, les joies négatives de la vie paisible dont on jouit en province se devinent, comme on devine l'existence d'un bon négociant en lisant l'épitaphe de sa tombe. Pour compléter les idées tristes et douces qui saisissent l'âme, un des murs offre un cadran solaire orné de cette inscription bourgeoisement chrétienne « Ultima cogita ». Les toits de cette maison sont horriblement dégradés, les persiennes sont toujours closes, les balcons sont couverts de nids d'hirondelles, les portes restent constamment fermées. De hautes herbes ont dessiné par des lignes vertes les fentes des perrons, les ferrures sont rouillées, la lune, le soleil, l'hiver, l'été, la neige ont creusé les bois, gauchi les planches, rongé les peintures. Le morne silence qui règne là n'est troublé que par les oiseaux, les chats, les fouines, les rats et les souris, libres de trotter, de se battre, de se manger. Une invisible main a partout écrit le mot « mystère ». Si, poussé par la curiosité, vous alliez voir cette maison du côté de la rue, vous apercevriez une grande porte de forme ronde par le haut et à laquelle les enfants du pays ont fait des trous nombreux. J'ai appris plus tard que cette porte était condamnée depuis 10 ans. Par ces brèches irrégulières, vous pourriez observer la parfaite harmonie qui existe entre la façade du jardin et la façade de la cour. Le même désordre y règne. Des bouquets d'herbes encadrent les pavés. D'énormes lézardes sillonnent les murs dont les crêtes noircies sont enlacées par les 1000 festons de la pariétaire. Les marches du perron sont disloquées. La corde de la cloche est pourrie. Les gouttières sont brisées. Quel feu tombé du ciel a passé par là? Quel tribunal a ordonné de semer du sel sur ce logis? Y a-t-on insulté Dieu? Y a-t-on trahi la France? Voilà ce qu'on se demande. Les reptiles y rampent sans vous répondre. Cette maison vide et déserte est une immense énigme dont le mot n'est connu de personne. Elle était autrefois un petit fief et porte le nom de la Grande Bretèche. Pendant le temps de mon séjour à Vendôme, la vue de ce singulier logis devint un de mes plaisirs les plus vifs. N'était-ce pas mieux qu'une ruine? À une ruine se rattachent quelques souvenirs d'une irréfragable authenticité. Mais cette habitation, encore debout, quoique lentement démolie par une main vengeresse, renfermait un secret, une pensée inconnue. Elle trahissait un caprice, tout au moins. Plus d'une fois le soir, je me fis aborder à la haie devenue sauvage qui protégeait cet enclos. Je bravais les égratignures. J'entrais dans ce jardin sans maître, dans cette propriété qui n'était plus ni publique ni particulière. J'y restais des heures entières à contempler son désordre. Je n'aurais pas voulu, pour prix de l'histoire à laquelle sans doute était dû ce spectacle bizarre, faire une seule question à quelque vendômois bavard. Là, je composais de délicieux romans. Je m'y livrais à de petites débauches de mélancolie qui me ravissaient. Si j'avais connu le motif, peut-être vulgaire, de cet abandon, j'eusse perdu les poésies inédites dont je m'enivrais. Pour moi, cet asile représentait les images les plus variées de la vie humaine, assombrie par ses malheurs. C'était tantôt l'air du cloître, moins les religieux, tantôt la paix du cimetière, sans les morts qui vous parlent leur langage épitaphique. Aujourd'hui la maison du lépreux, demain celle des Atrides, mais c'était toujours la province, avec ses idées recueillies, avec sa vie de sablier. J'y ai souvent pleuré, je n'y ai jamais ri. Plus d'une fois j'ai ressenti des terreurs involontaires en y entendant au-dessus de ma tête le sifflement sourd que rendaient les ailes de quelque ramier pressé. Le sol y est humide. Il faut s'y défier des lézards, des vipères, des grenouilles qui s'y promènent avec la sauvage liberté de la nature. Il faut surtout ne pas craindre le froid. Car en quelques instants, vous sentez un manteau de glace qui se pose sur vos épaules comme la main du commandeur sur le cou de Don Juan. Un soir, j'y ai frissonné. Le vent avait fait tourner une vieille girouette rouillée dont les cris ressemblèrent à un gémissement poussé par la maison au moment où j'achevais un drame assez noir, par lequel je m'expliquais cette espèce de douleur monumentalisée. Quand j'eus soupé, l'hôtesse entra d'un air de mystère dans ma chambre et me dit « Monsieur, voici Monsieur Regnault. » « Qui est Monsieur Regnault ? » « Comment, monsieur ne connaît pas Monsieur Regnault ? Ah, mais c'est drôle !» dit-elle en s'en allant. Tout à coup, je vis apparaître un homme long, fluet, vêtu de noir, tenant son chapeau à la main, et qui se présenta comme un bélier prêt à fondre sur son rival, en me montrant un front fuyant, une petite tête pointue et une face pâle, assez semblable à un verre d'eau sale. Vous eussiez dit l'huissier d'un ministre. Cet inconnu portait un vieil habit très usé sur les plis, mais il avait un diamant au jabot de sa chemise et des boucles d'or à ses oreilles. « Monsieur, à qui ai-je l'honneur ?» lui dis-je. Il s'assit sur une chaise, se mit devant mon feu, posa son chapeau sur ma table et me répondit en se frottant les mains « Ah, il fait bien froid, monsieur. Je suis monsieur Regnault. » Je m'inclinai en me disant à moi-même « Il bondo cani, cherche !»« Je suis, reprit-il, notaire à Vendôme. » Ben, « J'en suis ravi, monsieur, m'écriai-je, mais je ne suis point en mesure de tester pour des raisons à moi connues. » « Petit moment, reprit-il en levant la main comme pour m'imposer silence. « Permettez, monsieur, permettez, j'ai appris que vous alliez vous promener quelquefois dans le jardin de la Grande Bretèche. »« Oui, monsieur. » « Petit moment, dit-il en répétant son geste. « Cette action constitue un véritable délit. Monsieur, je viens au nom et comme exécuteur testamentaire de feu Madame la Comtesse de Merret, vous priez de discontinuer vos visites. Petit moment, je ne suis pas un Turc et ne veux point vous en faire un crime. D'ailleurs, bien permis à vous d'ignorer les circonstances qui m'obligent à laisser tomber en ruine le plus bel hôtel de Vendôme. Cependant, monsieur, vous paraissez avoir de l'instruction. Et devez savoir que les lois défendent, sous des peines graves, d'envahir une propriété close. Une haie vaut un mur. Mais l'état dans lequel la maison se trouve peut servir d'excuse à votre curiosité. Je ne demanderai pas mieux de vous laisser libre d'aller et venir dans cette maison, mais chargé d'exécuter les volontés de la testatrice, j'ai l'honneur, monsieur, de vous prier de ne plus entrer dans le jardin. Moi-même, monsieur, depuis l'ouverture du testament, je n'ai pas mis le pied dans cette maison, qui dépend, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, de la succession de Madame de Merret. Nous en avons seulement constaté les portes et fenêtres, afin d'asseoir les impôts que je paie annuellement sur des fonds à ceux destinés par feu Madame la Comtesse. Ah, mon cher monsieur, son testament a fait bien du bruit dans Vendôme. Là, il s'arrêta pour se moucher, le digne homme. Je respectais sa loquacité, comprenant à merveille que la succession de Madame de Merret était l'événement le plus important de sa vie, toute sa réputation, sa gloire, sa restauration. Il me fallait dire adieu à mes belles rêveries, à mes romans. Je ne fus donc pas rebelle au plaisir d'apprendre la vérité d'une manière officielle. « Monsieur, lui dis-je, serait-il indiscret de vous demander les raisons de cette bizarrerie ?»«
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Il y avait un bal coques donnaient des primes vertes. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distraction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Retour à Honoré de Balzac et à la Grande Bretèche. À ces mots, un air qui exprimait tout le plaisir que ressentent les hommes habitués à monter sur le dada passa sur la figure du notaire. Il releva le col de sa chemise avec une sorte de fatuité, tira sa tabatière, l'ouvrit, m'offrit du tabac. Et sur mon refus, il en saisit une forte pincée. Il était heureux. Un homme qui n'a pas de dada ignore tout le parti que l'on peut tirer de la vie. Un dada est le milieu précis entre la passion et la monomanie. En ce moment, je compris cette jolie expression de Sterne dans toute son étendue et j'eus une complète idée de la joie avec laquelle l'oncle Toby enfourchait trim et dent son cheval de bataille. « Monsieur, me dit M. Regnault, j'ai été premier clerc de maître Roguin à Paris. Excellente étude dont vous avez peut-être entendu parler, non ? Cependant, une malheureuse faillite l'a rendu célèbre. N'ayant pas assez de fortune pour traiter à Paris au prix où les charges montèrent en 1816, je vins ici acquérir l'étude de mon prédécesseur. J'avais des parents à Vendôme, entre autres une tante fort riche qui m'a donné sa fille en mariage. Monsieur, reprit-il après une légère pause, 3 mois après avoir été agréé par Monseigneur le garde des Sceaux, je fus mandé un soir, au moment où j'allais me coucher, je n'étais pas encore marié, par Madame la Comtesse de Merret en son château de Merret. Sa femme de chambre, une brave fille qui sert aujourd'hui dans cette hôtellerie, était à ma porte avec la calèche de Madame la Comtesse. Ah, un petit moment, il faut vous dire, monsieur, que monsieur le comte de Merret était allé mourir à Paris 2 mois avant que je vinsse ici. Il y périt misérablement en se livrant à des excès de tous les genres, vous comprenez ? Le jour de son départ, madame la comtesse avait quitté la Grande Bretèche et l'avait démeublée. Quelques personnes prétendent même qu'elle a brûlé les meubles, les tapisseries, enfin toutes les choses généralement quelconques qui garnissaient les lieux présentement loués par le dicieur. Mais tiens, qu'est-ce que je dis donc ? Pardon, je croyais avoir dicté un bail. Qu'elle les brûla, reprit-il, dans la prairie de Méret. Êtes-vous allé à Méret, monsieur ? Non, dit-il en faisant lui-même ma réponse. Ah, mais c'est un fort bel endroit. Depuis 3 mois environ, dit-il, en continuant après un petit hochement de tête, monsieur le comte et madame la comtesse avaient vécu singulièrement. Ils ne recevaient plus personne. Madame habitait le rez-de-chaussée et monsieur le premier étage. Quand madame la comtesse resta seule, elle ne se montra plus qu'à l'église. Plus tard, chez elle à son château, elle refusa de voir les amis et amies qui vinrent lui faire des visites. Elle était déjà très changée au moment où elle quitta la grande bretèche pour aller à Méret. Cette chère femme-là, je dis chère parce que ce diamant me vient d'elle, je l'ai vu d'ailleurs qu'une seule fois. Donc cette bonne dame était très malade. Elle avait sans doute désespéré de sa santé, car elle est morte sans vouloir appeler le médecin. Aussi beaucoup de nos dames ont-elles pensé qu'elle ne jouissait pas de toute sa tête. Monsieur, ma curiosité fut donc singulièrement excitée en apprenant que madame de Méret avait besoin de mon ministère. Je n'étais pas le seul qui s'intéressa à cette histoire. Le soir même, quoiqu'il fût tard, toute la ville sut que j'allais à Méret. La femme de chambre répondit assez vaguement aux questions que je lui fis en chemin. Néanmoins, elle me dit que sa maîtresse avait été administrée par le curé de Méret pendant la journée et qu'elle paraissait ne pas devoir passer la nuit. J'arrivai sur les 11 heures au château. Je montai le grand escalier. Après avoir traversé de grandes pièces hautes et noires, froides et humides en diable, je parvins dans la chambre à coucher d'honneur où était madame la comtesse. D'après les bruits qui couraient sur cette dame. Monsieur n'en finirait pas si je vous répétais tous les contes qui se sont débités à son égard. Je me la figurais comme une coquette. Imaginez-vous que j'eus beaucoup de peine à la trouver dans le grand lit où elle gisait. Il est vrai que pour éclairer cette énorme chambre à frise de l'Ancien Régime et poudrée de poussière à faire éternuer rien qu'à les voir, elle avait une de ces anciennes lampes d'argan. Ah, mais vous n'êtes pas allé à Méret. Eh bien, monsieur, le lit est un de ces lits d'autrefois, avec un ciel élevé garni d'indiennes à ramages. Une petite table de nuit était près du lit et je vis dessus une imitation de Jésus-Christ, que par parenthèse j'ai acheté à ma femme ainsi que la lampe. Il y avait aussi une grande bergère pour la femme de confiance et 2 chaises. Point de feu d'ailleurs. Voilà le mobilier. Ça n'aurait pas fait 10 lignes dans un inventaire. Ah, mon cher monsieur, si vous aviez vu, comme je la vis alors, cette vaste chambre tendue en tapisserie brune, vous vous seriez cru transporté dans une véritable scène de roman. C'était glacial. Et mieux que cela, funèbre, ajouta-t-il en levant le bras, par un geste théâtral et faisant une pause. À force de regarder en venant près du lit, je finis par voir madame de Méret. Encore grâce à la lueur de la lampe dont la clarté donnait sur les oreillers. Sa figure était jaune comme de la cire et ressemblait à 2 mains jointes. Madame la comtesse avait un bonnet de dentelle qui laissait voir de beaux cheveux, mais blancs comme un fil. Elle était sur son séant et paraissait s'y tenir avec beaucoup de difficulté. Ses grands yeux noirs, abattus par la fièvre sans doute et déjà presque morts, remuaient à peine sous les os où sont les sourcils. « Ça, » dit-il en me montrant l'arcadre de ses yeux. Son front était humide. Ses mains décharnées ressemblaient à des os recouverts d'une peau tendre. Ses veines, ses muscles se voyaient parfaitement bien. Elle avait dû être très belle. Mais en ce moment, je fus saisi de je ne sais quel sentiment à son aspect. Jamais, au dire de ceux qui l'ont ensevelie, une créature vivante n'avait atteint à sa maigreur sans mourir. Enfin, c'était épouvantable à voir. Le mal avait si bien rongé cette femme qu'elle n'était plus qu'un fantôme. Ses lèvres d'un violet pâle me parurent immobiles quand elle me parla. Quoique ma profession m'ait familiarisé avec ces spectacles en me conduisant parfois au chevet des mourants pour constater leur dernière volonté, j'avoue que les familles en larmes et les agonies que j'ai vues n'étaient rien auprès de cette femme solitaire et silencieuse dans ce vaste château. Je n'entendais pas le moindre bruit. Je ne voyais pas ce mouvement que la respiration de la malade aurait dû imprimer au drap qui la couvrait. Et je restais tout à fait immobile, occupé à la regarder avec une sorte de stupeur. Il me semble que j'y suis encore. Enfin, ses grands yeux se remuèrent, elle essaya de lever sa main droite qui retomba sur le lit, et ses mots sortirent de sa bouche comme un souffle, car sa voix n'était déjà plus une voix. « Je vous attendais avec bien de l'impatience. » Ses joues se colorèrent vivement. Parler, monsieur, était un effort pour elle. « Madame, lui dis-je. » Elle me fit signe de me taire. En ce moment, la vieille femme de charge se leva et me dit à l'oreille « Ne parlez pas. Madame la comtesse est hors d'état d'entendre le moindre bruit et ce que vous lui diriez pourrait l'agiter. » Je m'assis. Quelques instants après, Madame de Merret rassembla tout ce qui lui restait de force pour mouvoir son bras droit. Le mit, non sans des peines infinies, sous son traversin. Elle s'arrêta pendant un petit moment, puis elle fit un dernier effort pour retirer sa main. Et lorsqu'elle eut pris un papier cacheté, des gouttes de sueur tombèrent de son front. « Je vous confie mon testament. » dit-elle. Ah, mon Dieu ! Ah ! Ce fut tout. Elle saisit un crucifix qui était sur son lit, le porta rapidement à ses lèvres et mourut. L'expression de ses yeux fixés me fait encore frissonner quand j'y songe. Elle avait dû bien souffrir. Il y avait de la joie dans son dernier regard, sentiment qui resta gravé sur ses yeux morts. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce début de la nouvelle de Honoré de Balzac, La Grande Bretèche, que nous retrouverons bien sûr demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.